Voilà. Est-ce qu'on peut juste prier ? Alléluia, Papa. Alléluia, Seigneur, c'est si bon d'être ensemble devant toi. C'est si bon de savoir que tu es au milieu de nous, de savoir que nous nous rassemblons autour d'un Père, d'un vrai Papa, qui a dit qu'on est près de lui, tout près de lui, qui nous a pris sur ses bras et qui veut parler à chacun de nous. Merci que tu t'approches de chacun de nous et tu parles à nos cœurs. Merci parce que nous sommes forts, parce que nous sommes ensemble, nous sommes les uns avec les autres, nous nous aimons les uns les autres. Et je te prie vraiment que cet amour grandisse au milieu de nous. Aide-nous à prendre soin les uns des autres, Papa, vraiment. Et je te prie pour ce temps, que vraiment tu oignes ma bouche, que tu m'aides à donner ce qui est sur mon cœur, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, je suis reconnaissant pour ce qui a déjà été dit ce matin, pour David. Merci David, hein, par rapport aux enfants. Il y a vraiment des choses que Dieu a mis sur mon cœur. Je crois qu'une partie de ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est ce que Luc a dit par rapport à l'ours qui se lève. Si vous touchez un seul de ces petits, l'ours se lève. Et je crois que Dieu se lève pour ses petits. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste dire qu'à Strasbourg, je crois qu'il y a quelqu'un qui a à cœur de commencer une église de 2000 personnes. Alors, j'ai trouvé ça super et en même temps, j'étais remis au fond de moi. Je me suis dit, Seigneur, s'il y a 300 000 personnes à Strasbourg, ça veut dire qu'il y en a 2 000 qui seront bénis, puis il y en a 298 000 qui sont, on ne sait pas où. Et Seigneur, quoi avec les 298 000 ? Et je crois que si on a à cœur une nouvelle salle, ce n'est pas pour la remplir. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est pour que Gabe Villers devienne une église. C'est Gabe Villers qui a appelé à devenir l'église. C'est Gabe Villers tout entier qui doit se tourner vers Dieu et qui doit être touché par la grâce de Dieu. Et Dieu veut habiter dans Gabe Villers. Il ne veut pas juste habiter dans un local et pas avoir droit d'accès ailleurs. Il veut les portes, il veut que les anciens soient aux portes parce qu'il veut avoir accès à Gabe Villers. C'est par les portes qu'on rentre. Et il veut rentrer dans Gabe Villers. Et il dit, occupez les portes pour que je puisse entrer dans cette ville. Prenez les portes. Ne laissez pas les portes à l'ennemi. Occupez les places. Prenez les places parce que je veux venir régner dans cette ville. Et nos salles, après, ce sont juste des QG. Hein, c'est des QG, des quartiers généraux. Mais ce n'est pas ça. C'est pas elles-mêmes, elles ne sont pas le but. Après qu'elles soient pleines, gloire à Dieu. Hein, que ça déborde même. Et qu'après, on a besoin de plus de locaux aussi, gloire à Dieu. Mais ils ne seront pas suffisants, parce qu'on veut 6000 personnes au Seigneur, et plus. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un Matthieu 13 ? Matthieu 1, pardon. Au verset 13, je me suis trompé dans mes références. C'est le chapitre 2, verset 13. Donc les anges sont venus vers Jésus, hein, qui était tout bébé. Et après, ils sont repartis et après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Joseph partit, etc. Verset 16, quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit, et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils, et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Et il y a trois dimanches, pendant la louange, c'est ce verset qui est monté dans mon cœur. On entend à Rama une voix qui gémit, et d'abondants sanglots. Rachel pleure ses fils, et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Est-ce qu'on peut reprendre dans Jérémie 31 ? Verset 15. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. C'est dans ce passage. C'est un passage où Dieu promet que les fils reviendront sur leur terre, que les fils reviendront. Et en plein milieu, il dit, on entend à Rama des pleurs, des gémissements. Rachel pleure ses fils. Rachel, vous vous rappelez l'histoire de Rachel ? Qu'est-ce qu'elle était au début ? Elle était stérile. Rachel était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Vous savez ce que la Bible dit ? Avant, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Et littéralement, Dieu avait fermé sa matrice. Elle ne pouvait pas enfanter par décret du Très-Haut. Pourquoi Dieu l'avait rendue stérile ? J'aimerais qu'on voit ça plus tard. Mais elle a crié vers Dieu, elle a pleuré. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il lui a rendu, au moment donné, au temps voulu, rendu capable d'enfanter et de donner naissance. Et elle a donné naissance à Joseph, qui est l'héritier de la bénédiction d'Abraham. C'est lui qui était considéré comme le fils aîné. Et après Joseph sont venus deux fils, Éphraïm et Manassé. Et ce sont eux qui sont devenus les plus grandes tribus. C'était eux qui ont reçu, qui sont le symbole de la bénédiction de Dieu. Et ils ont d'énormes promesses qui ne sont pas encore accomplies pour Éphraïm. Donc elle était stérile. Elle a pleuré sur sa stérilité. Elle a crié à Dieu. Et Dieu lui a donné d'enfanter. Et si on revient sur les mères de Rachel, là, vous vous rappelez que la dernière fois j'avais parlé des pères en Israël ? Et en même temps avec ce verset qui montait en moi, c'était comme si Dieu me parlait. Regarde les mères. Regarde les mères d'Israël. Les mères qui sont aussi des mères pour l'Église, des modèles pour l'Église. La première des mères, c'est qui ? Sarah. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Sarah ? Stérile. Dieu l'avait aussi rendue stérile. Et elle a gémi pendant des années. Elle a pleuré des années sur sa stérilité, sur le fait qu'elle ne pouvait pas être mère. Et c'était une honte, c'était un déshonneur, c'était la pire des choses pour une maman, pour une dame mariée, de ne pas pouvoir enfanter. Et qu'est-ce que Dieu lui a fait ? Une promesse. Tu auras un fils. Et au travers de ce fils, je bénirai les nations. C'est lui qui recevra toute la bénédiction d'Abraham. Et il enfantera des nations, des milliers d'enfants. Isaac est venu. Et Isaac s'est marié avec Rebecca. Que peut-on dire de Rebecca ? Elle était stérile. Stérile, Rebecca. Et qu'est-ce que Dieu a, Isaac a prié pour elle, et Dieu lui donna d'enfanter. Et elle enfanta Jacob et Ésaü. Jacob, il s'est marié avec deux femmes. Une femme a eu beaucoup d'enfants, et une était stérile. La femme que Jacob aimait était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Quelle tristesse, un couple qui s'aime et pas d'enfants. Excusez-moi. Un couple qui s'aime et pas d'enfants. Et alors, quand j'ai regardé dans Jérémie 31, il y avait, où est-ce qu'on entend les pleurs ? Où est-ce qu'on entend les sanglots amers et les gémissements ? Vous vous rappelez la ville ? À Rama. J'ai regardé, j'ai dit, pourquoi Rama, Seigneur ? Et j'ai pas vu de rapport entre Rachel et Rama. Rama, c'est tout près de Bethléem et de Jérusalem. Mais par contre, ce qui s'est passé à Rama, c'est dans 1 Samuel 1. Un homme nommé Elkana vivait à Ramataïm, dans la région montagneuse d'Éphraïm. C'est un descendant d'Éphraïm, un descendant de Rachel. Il était fils de, etc., un Éphraïmite. Il avait épousé deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Rebelote, même histoire que Jacob. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme, Pénina, et à tous ses enfants, et il donnait une part double à Anne, parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Pourquoi, Seigneur ? Qu'est-ce qui fait que des mères en Israël ont été empêchées d'avoir des enfants ? Pourquoi, Seigneur, as-tu privé des femmes d'enfants ? Pourquoi Sarah n'avait pas le droit d'enfanter ? Pourquoi Rebecca n'avait pas le droit ? Pourquoi Rachel n'avait pas le droit ? Pourquoi Anne n'a pas eu le droit ? Pourquoi, Seigneur, les as-tu rendues stériles ? Pourquoi as-tu voulu que des mères en Israël soient stériles ? Vous savez tous que Anne a donné naissance à Samuel. Samuel, un des pères de la nation. C'était un des plus grands prophètes. C'est lui qui a oint les premiers rois. C'est lui qui a jugé Israël pendant 40 ans. C'est lui qui a posé des bases pour la nation. Une mère en Israël stérile. Qu'est-ce que c'est que ces mères stériles ? Qu'elles n'ont pas pu enfanter d'abord. Pourquoi, Seigneur, l'as-tu voulu ? Verset 6. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter qu'en Dieu de ce qu'il l'avait rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes ces années où Anne a dû pleurer, gémir devant le Seigneur. Elle rentrait dans sa chambre, elle fermait. Elle se couchait sur son lit, elle se mettait à genoux au pied de son lit et elle pleurait. Seigneur, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu rendu stérile ? Pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant ? Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi restes-tu sans manger ? Pourquoi es-tu si malheureuse ? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que difficile ? Je suis un mari si exceptionnel pour toi. Je t'aime, je prends soin de toi, j'ai aucun reproche que tu n'as pas d'enfant. Je suis heureux avec toi. Pourquoi es-tu malheureuse ? Pourquoi veux-tu des enfants, Anne ? Pourquoi veux-tu des enfants ? Pourquoi veux-tu enfanter ? Pourquoi n'es-tu pas heureuse avec moi ?» Verset 9. « Après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. » Dans les sanglots, Anne pria l'Éternel. Alors elle fit le vœu suivant. « Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. » Comme elle priait, Élie pensa qu'elle était ivre et il l'appela. « Combien de temps veux-tu encore éclater ton ivresse ? Va cuver ton vin ailleurs. » Anne lui répondit, « Non, Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse. Et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal. Ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. » Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Amen. Amen. Bien sûr, on sait qu'il l'a exaucée. On sait qu'elle est devenue enceinte et qu'elle a donné naissance à Samuel. Est-ce qu'il y a une réponse ? Pourquoi ? Pourquoi il y a eu des femmes stériles ? Qu'est-ce qui se passe dans la stérilité ? Qu'est-ce qui se passe quand je ne peux pas porter d'enfant ? Qu'est-ce qui se passe quand une dame qui est appelée à enfanter ? Qu'est-ce qui est une des choses les plus importantes dans un cœur de femme ? C'est de pouvoir enfanter, de pouvoir donner naissance à un enfant, de pouvoir l'allaiter, le porter, lui donner la vie. Et qu'est-ce qui se passe quand elle n'a pas ça ? Elle crie, elle pleure. Et quand elle crie, elle pleure, si elle fait partie du peuple de Dieu, elle crie vers son Seigneur. Et le Seigneur, il enregistre. Et il dit... Il a dit dans Jérémie, il a dit dans Matthieu, on entend des pleurs à Rama. On entend des gémissements. Et le Seigneur dit, j'ai entendu des gémissements. J'ai entendu des gémissements qui ont duré des années. Des pleurs, des cris vers moi pour des enfants qui n'étaient pas là. J'ai entendu ces pleurs, j'ai entendu ces cris. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert le sein, j'ai ouvert la matrice. Et j'ai rendu capable d'enfanter celle qui avait pleuré et gémi devant moi. Et elle a donné naissance à des nations. Elle a donné naissance à des peuples. Elle a donné naissance à des hommes et des femmes de Dieu. Amen. C'est l'image de qui ? Anne et Elkana. C'est l'image de l'Église. Elkana, ça veut dire Dieu a acquis. Christ s'est acquis un peuple. Il s'est acquis une épouse. Il s'est acquis une nation. Et il aime cette épouse, il la chérit, il l'entoure de ses soins. Il l'aime et lui dit, tu es précieuse pour moi, mon épouse, je t'aime. Je t'aime même si tu ne portais pas de fils. Je t'aime même si tu n'engendrais pas. Mais maintenant, mon épouse, c'est l'heure pour toi d'engendrer. C'est l'heure pour toi d'enfanter. Anne, pourquoi pleures-tu ? Je sais que Anne, on parlait de Anne tout à l'heure. Je sais que j'ai déjà vu pleurer pour enfanter. Et je crois que nous, on doit apprendre. On doit recevoir le fardeau. Rama, c'est la hauteur. On doit monter sur la hauteur. On doit devenir un peuple d'intercesseurs. On doit apprendre à pleurer devant le Seigneur. Amen. Je pense que des fois, on a comme été une épouse stérile. On n'a pas enfanté. Ésaïe 26, 18. Seigneur, verset 16, Éternel, dans la détresse, nous nous sommes tournés vers toi. Nous t'avons présenté notre prière quand tu nous as corrigés. Nous étions devant toi, ô Éternel, comme une femme enceinte et prête à enfanter qui souffre et qui crie de douleur. Car nous avons conçu. Mais ce que nous avons enfanté, c'est du vent. Nous n'avons pas donné le salut à la terre et nous n'avons pas donné la vie à de nouveaux habitants dans le monde. Nous avons conçu des choses. Nous avons conçu des projets. Nous avons conçu beaucoup de choses. On a travaillé. On a même souffert dans le travail. Mais nous avons enfanté du vent. Nous n'avons pas donné le salut à la terre. Nous n'avons pas enfanté la vie. Nous n'avons pas enfanté de nouveaux habitants dans le monde. Nous n'avons pas enfanté de nouveaux habitants à Christ. Alors le Seigneur n'accuse pas, il est comme Elkana. Je ne t'accuse pas, je t'aime tant. Je t'aime tant. Mais c'est l'heure pour toi, mon épouse. Il faut que tu saches que tu es appelé à enfanter. Et j'ai mis en toi le désir d'enfanter. J'ai mis en toi le désir d'enfanter. J'ai mis en toi le désir de donner la vie. Et nous, les frères, nous ne nous disons pas que ça ne nous concerne pas. Dieu est un père et il est une mère. Il prend sur ses genoux et il console. Il prend soin. Et nous, les pères, nous devons recevoir ce cœur de mère pour enfanter, donner la vie. Mais surtout, nous devons encourager nos sœurs dans leur ministère. Ça, c'est Dieu, le travail de Dieu, comme il fait, comme il veut. Mais nous levons-nous tous ensemble pour enfanter et donner la vie. Amen. Est-ce que nous avons pleuré sur notre stérilité? Est-ce que nous avons pleuré sur les âmes qui ne sont pas nées à Christ, sur les âmes perdues? Et je crois que Rachel, elle est le signe de tout ce qui n'est pas né à Dieu ou de tout ce qui a été attaqué quand c'est né. C'est comme si Rachel, vous savez, dans Matthieu, Dieu a appelé Jérusalem ou Israël Rachel. Elle représente toutes ces femmes stériles, toutes les femmes qui ont perdu des enfants. Parce que l'ennemi, il a toujours la même stratégie. Et on parlait de l'église persécutée de Christ. Et j'avais dit une chose, et c'est comme si je me disais, mais peut-être je me suis trompé. J'avais dit que l'église de Christ, le corps de Christ a commencé à être persécuté à la croix, quand le corps de Christ a été torturé. Mais l'église, elle a été persécutée avant. Elle était persécutée à la naissance de Christ. Des dizaines ou des centaines, je ne sais pas, d'enfants sont morts parce que le Fils de Dieu est venu sur la terre. Et le Fils de Dieu est venu sur la terre et ça a coûté la vie à des enfants. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on apprécierait ça? Si maintenant il y a un homme de Dieu qui se lève au milieu de nous, je suis un enfant envoyé de Dieu, paf, des dizaines, centaines d'enfants morts à côté à cause de ça, qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'ont dû dire les gens? Mais le Seigneur t'envoie un enfant, un Messie, et ça coûte la vie à des dizaines d'enfants? C'est quoi ça? L'ennemi persécute et s'attaque aux enfants. Il s'attaque aux enfants en premier. David, il disait, il nous rappelait ce matin, les enfants. Jésus, il a dit, laissez venir à moi les enfants. Le royaume de Dieu est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. Nos enfants sont précieux. Et les enfants du monde sont précieux. Je crois que le Seigneur s'attaque à deux choses. Il s'attaque à la stérilité, au fait qu'on n'enfante pas. Il y a la stérilité au niveau de l'enfantement physique et la stérilité au niveau spirituel. Et il s'attaque au fait que des enfants sont maltraités, sont torturés, sont violentés, sont abusés, sont méprisés. Et le Seigneur s'attaque à ça. Et il en a assez. Il en a assez. Et il se lève comme une ours qui va défendre ses petits. Et je peux ça vous assurer que ça va faire mal. Le Seigneur n'en peut plus. Alléluia. Lamentation 3, je crois, si je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai noté. Lamentation 2, pardon. 2,18. 2,18. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Muraille de Sion, laisse couler tes larmes jour et nuit comme un fleuve. Ne t'accorde aucun relâche, que ton œil n'ait pas de repos. Debout, que tes supplications s'élèvent dans la nuit, au début de toutes les veilles. Épanche ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Lève les mains vers lui pour la vie de tes nourrissons, de tes enfants qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Vois, Éternel, et considère qui as-tu traité de la sorte. Se peut-il que des femmes dévorent les enfants qu'elles ont mis au monde, les bébés qu'elles ont choyés? Se peut-il que des femmes dévorent les enfants qu'elles ont mis au monde? Muraille de Sion, muraille de Sion, laisse couler tes larmes, jour et nuit, comme un fleuve. Est-ce que je vous me permettez de parler sur l'avortement? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut dire que chaque année, 200 000 enfants sont tués? 200 000 enfants, depuis des années. Le Seigneur en a assez et il crie. Et quand le verset est monté en moi, j'entendais aussi le Seigneur qui disait « Je crie. Je pleure sur toutes les âmes qui me sont volées. Je pleure sur tous les enfants qui me sont volés. » Le Seigneur en a assez des vols. Il y en a un qui est venu pour voler. Et le Seigneur lui dit « J'en ai assez d'être volé. J'en ai assez d'être volé. J'en ai assez du voleur. » Est-ce qu'on va laisser le voleur continuer à agir? Est-ce qu'on va laisser le voleur continuer à voler? Dans Jérémie 31, quand Rachel elle pleure, elle refuse d'être consolée. Et vous savez ce qu'on a fait? On a accepté d'être consolé. On a accepté des fausses consolations. On a accepté qu'on nous dise « mais c'est pas grave, tout va bien, pourvu qu'en tant qu'Église on puisse continuer à fonctionner, pourvu qu'on puisse avoir les cultes le dimanche matin, pourvu qu'on puisse tourner, pourvu qu'on ait nos maisons, nos travails, que nos enfants ça va, pourvu que ça aille bien. C'est pas grave si dans l'État, dans notre nation, 200 000 enfants sont morts. C'est pas grave. C'est pas grave si les enfants sont torturés. C'est pas grave si en Thaïlande, des enfants sont violés jour après jour. C'est pas grave. C'est pas chez vous. C'est pas les vôtres. C'est pas grave. Soyez consolés, tout va bien. Bougez pas. Bougez pas, faites rien. Ne vous levez pas. Ne priez pas. Ne pleurez pas, tout va bien. On n'a plus le droit. On n'a plus le droit. Le Seigneur se lève. Et je vous en supplie, ne laissez pas Dieu se lever sans qu'on se lève avec. Ne vous laissez pas Dieu se lever et qu'il doive prendre quelqu'un d'autre que vous. Ne laissez pas Dieu prendre, regardez et cherchez quelqu'un et tournez la tête. Ne lui dites, c'est pas moi, Seigneur. Ne lui dites pas ça. Laisse Dieu te trouver, toi. Laisse Dieu te prendre, toi. Laisse Dieu te retrouver, toi. Est-ce qu'il peut te mettre dans la muraille de Sion? Est-ce qu'il peut te mettre dans la muraille? Il est en train de lever la muraille pour qu'elle crie à lui, pour qu'elle crie comme Anne a crié, comme Sarah, comme Rachel. Elles ont crié à Dieu pour la naissance des enfants, pour le salut des enfants. Et Dieu veut te trouver toi et te mettre dans la muraille. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord qu'il puisse t'utiliser? Ne te dis pas que c'est pas la peine avec toi. Il y a un homme de Dieu qui a dit ça. L'Esprit de Dieu veut lever les plus petits de par le monde. Il va leur donner une trompette dans une main et une épée dans l'autre. Leur voix va percer les plus profondes ténèbres dans leur pays. La voix d'un enfant est intolérable pour l'ennemi. Il ne peut plus supporter le poids d'une voix d'un enfant qui affirme les choses de Dieu, ni sa foi audacieuse. Le royaume de Dieu est pour les enfants et ceux qui leur ressemblent. La foi d'un enfant est une force. Dans Zacharie 9, il est marqué « Je lèverai tes enfants, Sion, contre les enfants de Javan, l'esprit grec. Je me lèverai, je serai au-dessus d'eux comme l'éclair. Et je percerai les ennemis et je les détruirai. » Avec les enfants. Ils peuvent avoir ce qu'ils disent. Ils portent mon autorité, mon identité et ma puissance. Leur voix ira jusqu'aux extrémités de la terre. Je les écoute et je vais ébranler les fondations rien qu'en entendant une de leurs voix qui crie à moi. Ces enfants sont tout pour moi. Je vis, je suis mort pour eux. Je ne peux et je ne vais plus supporter l'injustice qui leur est faite. Je ne peux plus supporter les cris des enfants qui montent à moi parce qu'ils souffrent dans la douleur. Je ne supporte plus les cris des enfants. Je ne supporte plus d'entendre les cris qui montent à moi et qu'il n'y a pas de défense pour eux. Je vais venir sur eux avec l'épée de mon esprit. Je vais faire que chacun d'eux se lève et porte mon nom et détruit chaque péché intolérable qui leur a été fait. Le jour de leur délivrance est proche. Ils ont crié vers moi, ils ont crié vers moi à l'injustice. Non seulement pour ceux qui vivent, mais aussi pour ceux qui ont subi des violences à en mourir et ont été martyrisés. Ils portent aussi le poids de l'onction des enfants martyrs qui sont morts avant eux. J'ai entendu chaque cri de chaque enfant qui souffrait sur la terre et qui est maintenant dans le ciel. Et j'agis d'après leurs cris. Je ne peux plus supporter leurs cris plus longtemps. L'ennemi agit toujours de la même façon. Vous vous rappelez ce que Pharaon a fait quand les enfants ont voulu, quand Israël a voulu sortir? Vous a dit, vous pouvez partir, vous me laissez les enfants là. Et avant, qu'est-ce qu'il avait déjà commencé à faire dans Exode 1? Peut-être pas nécessairement à le prendre. Il faisait tuer tous les garçons premiers-nés. Et l'ennemi veut tuer nos enfants. Il veut tuer les enfants des nations. Il y a eu des sages-femmes qui ont résisté. Et je peux vous dire aussi qu'aujourd'hui, Dieu élève des sages-femmes. Des femmes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vont aider à l'accouchement. Qui vont savoir couvrir les enfants. Des sages-femmes spirituelles. Dieu veut te lever, toi. Dieu lève des intercesseurs comme sages-femmes pour aider à l'accouchement. Alléluia, papa. Alléluia. Alléluia, papa. Nous devons nous laisser interpeller par le Seigneur maintenant. Le Seigneur nous appelle à venir vers lui, à pleurer. Et vous savez ce qu'il dit dans Jérémie 31, la suite? Je vais vous le lire. Voici ce que déclare l'Éternel. C'est juste à la suite du verset de Rama et de Rachel. Hein. Voici ce que déclare l'Éternel. Retiens-toi de pleurer. Ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense, l'Éternel le déclare. Et tes fils reviendront et t'aideront du pays ennemi. Il y a pour tes descendants une espérance, l'Éternel le déclare. Il y a une récompense pour ton labeur. Est-ce que vous vous rendez compte? Un labeur. Quel était le labeur? D'avoir pleuré, gémi devant Dieu. Parce que ce que je voulais dans mes entrailles n'était pas là. Et le Seigneur, il a vu ça. Et il répond à ça. Et il y a une récompense pour ton labeur. Il a répondu, Ésaïe 54 dit, « Régis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles que ceux de celles qui étaient mariées. » Celle qui était mariée, elle a eu des enfants et ils ont leur bénédiction. Mais combien grande est la bénédiction de celle qui était stérile, qui n'enfantait pas, qui a gémi devant Dieu. Et quand Dieu a ouvert la matrice, la bénédiction est descendue et les enfants vont et accomplissent des exploits au nom du Seigneur. Amen. Ne pleurons pas sur une stérilité en nous condamnant. Loin de là. Utilisons la stérilité comme une arme pour pleurer devant Dieu et dire « Seigneur, on veut ces enfants. On veut les enfants que tu nous as promis. » Et si le Seigneur, si moi j'étais remué par rapport à une église de 2000 membres et qui me disait « C'est une église que je veux. » Je vais vous dire une chose, Dieu ne veut pas que les enfants de Guébillère, même pas que les nôtres, déjà ceux de Guébillère, mais Dieu veut sauver des millions d'enfants sur notre terre. Dieu veut des millions d'enfants. Dieu ne compte plus en unités, il ne compte plus en dizaines, il ne compte plus en centaines, il ne compte même plus en milliers. Maintenant, Dieu commence à compter en millions. Et on doit accepter qu'on soit transformé dans notre intelligence, on doit commencer à donner nos vies, à offrir nos corps en sacrifice vivant, afin que des millions viennent à Christ. On doit commencer à accepter de voir pour des millions. Des millions d'enfants sauvés,
délivré de la maltraitance, délivré de l'abus, délivré de la mort, délivré de la non-naissance, des millions. C'est ça qu'on doit maintenant pleurer devant Dieu. Et en même temps qu'on pleure, et la promesse est déjà là, de savoir qu'un jour je ne pleurerai plus, mais je rirai, et je sauterai, et je crierai, parce que je verrai les enfants. Je verrai ce que Dieu m'a donné. Alléluia, Seigneur. Il y a marqué dans la parole, d'où sont venus ces enfants? Je n'avais pas enfanté, je ne portais pas, j'avais rien. Et maintenant j'ai des enfants, mais d'où ils me viennent ceux-là? Qui c'est qui a porté ces enfants? Qui c'est qui les a mis au monde? Eh bien, le Seigneur peut faire le miracle, il peut engendrer une nation en un seul jour. Croyons. Amen. Alléluia, papa. Alléluia, papa. Alléluia. Seigneur, maintenant, nous voulons reconnaître que nous avons été stériles. Nous avons reconnaître qu'à un moment, notre matrice avait été fermée, papa. Et nous voulons reconfesser que nous avions accepté la consolation. On avait dit que tout va bien. On avait dit que ça peut aller, c'est pas trop mal. On a de la louange. On a des cultes qui sont bien. Seigneur, on s'est dit tout va bien. Et là, maintenant, on a même une salle. Seigneur, on a dit c'est pas mal. On s'est consolé. Eh bien, Seigneur, maintenant, on veut te dire qu'on ne veut plus être consolé. On veut te dire que nous, on ne considère pas cela comme une fin. Mais ce n'est qu'un début. C'est le début de ce que tu veux faire. Et Seigneur, on s'offre à toi comme un sacrifice vivant, afin que tu puisses nous utiliser, que tu nous places dans la muraille de Sion. Seigneur, on veut que tu touches nos entrailles, afin que nous puissions pleurer devant toi, afin que l'on puisse crier à toi pour l'Église persécutée. Et l'Église, la première Église persécutée, ce sont les enfants des nations. Seigneur, on veut crier à toi pour les enfants des nations. On veut plus se taire devant toi. On veut pleurer jour et nuit devant toi, Seigneur. Et Seigneur, j'appelle les pleurs. J'appelle l'intercession. Que l'esprit d'intercession se répande au milieu de nous, qu'il se multiplie. Seigneur, nous ne voulons pas que l'esprit d'intercession soit sur quelques-uns, mais qu'il se répande, qu'il se multiplie, que tu nous trouves et que tu nous places où tu le veux, dans la muraille. Seigneur, touche nos entrailles. Donne-nous des entrailles de mère, des entrailles qui soivent d'enfanter, qui sont malheureuses parce qu'elles n'enfantent pas. Seigneur, nous sommes arrivés à la trentaine. Les jeunes femmes de 30 ans qui n'ont pas enfanté, elles commencent à se dire « Oui, ma carrière, c'est bien. Oui, ma vie, c'est bien. C'est pas mal. Mais j'ai pas enfanté. J'ai pas d'enfant. J'ai pas élevé d'enfant. Et maintenant, je suis dans ma trentaine et je veux mes enfants. Je veux les enfants. Et Seigneur, nous sommes dans cette étape. Nous voulons des enfants. Nous voulons nous multiplier. Nous voulons que l'éducation chrétienne se multiplie. Nous voulons que la foi se multiplie. Nous voulons que les enfants viennent à toi par centaines, milliers et millions. Nous voulons que les tortures cessent. Nous voulons croire. Nous voulons croire à la fin de l'avortement. Nous nous sommes consolés parce que nous avons vu des serviteurs de Dieu qui ont fait des jeûnes, qui ont fait des sittings à Paris. Et rien ne s'est passé. Ça s'est arrêté. Et l'Église s'est endormie là-dessus. L'Église n'a plus rien dit. Elle n'a presque plus rien fait. Et Seigneur, nous sommes laissés consoler. Nous avons une consolation extérieure. Une consolation étrangère. Et on l'a acceptée, on l'a tolérée dans nos vies. Seigneur, pardon. Nous ne voulons plus nous laisser consoler, nous voulons que ta consolation à toi. Seigneur, nous ne nous laisserons plus taire. Nous ne nous tairons plus. Pour que l'avortement s'arrête dans notre nation. Pour qu'on arrête d'être une nation tueuse. Seigneur, si certains ont combattu pour l'esclavage, pourquoi nous ne combatterions pas pour l'avortement? Si certains ont lutté à vie pour l'abolition de l'esclavage, pourquoi ne lutterions-nous pas pour l'abolition de l'avortement? Seigneur, nous ne voulons plus garder le crime sur nos épaules. Seigneur, nous portons le poids de la criminalité. Nous portons le poids en tant qu'Église. Et Seigneur, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons cette faute. Nous reconnaissons que nous sommes coupables. Seigneur, nous te demandons grâce. 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 Alléluia. Alléluia, papa. Et nous crions à toi pour que notre stérilité s'arrête et que tu nous rendes capables maintenant d'enfanter. Au nom de Jésus, je prie maintenant que des seins maternels s'ouvrent dans l'autorité du nom de Jésus. Je maudis maintenant toute stérilité dans l'autorité du nom de Jésus. Et je dis qu'il y a des seins maternels qui s'ouvrent. Je dis maintenant qu'il y a des seins qui s'ouvrent et des seins spirituels aussi s'ouvrent dans le nom de Jésus pour crier à Dieu, pour pleurer et pour être enceint, pour recevoir l'œuvre de la pensée de Dieu, l'œuvre de Dieu, pour recevoir des œuvres de Dieu dans l'autorité du nom de Jésus. Nous avons enfanté des œuvres de la chair. Nous avons conçu du vent. Maintenant, au nom de Jésus, nous renonçons à tout ce que nous avons conçu qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui n'est pas né de l'Esprit. Et au nom de Jésus, maintenant, nous disons arrière, nous nous séparons de cela. Nous n'en voulons plus, nous voulons couper les ponts avec ces trucs. Et Seigneur, nous voulons entrer dans les choses nouvelles. Au nom de Jésus, maintenant, je dis qu'il y a des choses de l'Esprit qui doivent naître. Je dis au nom de Jésus, maintenant, qu'il y a des saints qui sont enceintes des œuvres de l'Esprit, des pensées de l'Esprit. J'appelle des inventions de l'Esprit dans l'autorité du nom de Jésus. J'ai dit qu'il y a des choses de l'Esprit qui doivent naître dans nos mentalités, dans nos pensées. Alléluia, dans l'autorité du nom de Jésus. Et j'ai dit qu'il n'y aura plus de stérilité. J'ai dit que la stérilité est finie, ce n'est plus le temps. C'est terminé. J'ai dit maintenant c'est le temps de l'enfantement. C'est le temps de la conception, c'est le temps de la naissance. C'est le temps aussi maintenant de la délivrance des enfants, au nom de Jésus. C'est le temps d'une maturité normale pour les enfants, qu'ils connaissent des cœurs de père, des cœurs de mère, qui deviennent des adolescents et des jeunes et des adultes selon le cœur de Dieu, dans l'autorité du nom de Jésus. Et je ne dis pas ça par unité, dizaines ou centaines, je l'appelle par millions, dans l'autorité du nom de Jésus. Et je dis que nous nous lèverons en tant qu'Église ensemble pour le vivre et le voir. Alléluia, Seigneur. Alléluia. À porte ouverte, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit mot pour dire comment vous appelleriez la fin de cette année. Alors, il y avait toute une trentaine de mots, fin, sortie, terminaison, achèvement, etc. Et moi, le mot qui m'est venu, je ne pensais même plus à ce que je voulais partager, c'était délivrance. Pour la fin de cette année. Et après que j'ai noté tout ça, délivrance égale libération plus accouchement, je me dis, Seigneur, je crois vraiment que c'est ce que tu veux dire pour cette fin d'année. Donc, nous ne nous disons pas que c'est pour dans 10 ans, 5 ans, 2 ans. C'est aujourd'hui que ça commence. Amen.
En guise de conclusion, il y a une réponse de Dieu par rapport à ce message aussi. Parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette mort, contre ces enfants qui meurent? Et nous avons l'histoire dans 2 Rois 4, lorsque le fils de la Tsunamite est mort, un texte qui est familier pour plusieurs. Il était bien mort, comme beaucoup d'enfants. Comment Dieu a fait pour donner la vie? Élisée, prophète, qui parle de l'Église prophétique. Il est monté, il s'est couché sur l'enfant. Se coucher sur l'enfant, ça veut dire intercession. C'est ça, se coucher sur l'enfant. Ensuite, il a mis sa bouche sur sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole, ministère de la parole. Ça veut dire ministère de l'enseignement. La bouche sur la bouche. Mais ça ne suffit pas. Il a mis les yeux sur les yeux. C'est quoi les yeux sur les yeux? C'est communiquer une autre vision du monde, une autre façon de voir le monde, la réalité. Et ça, c'est tous les programmes scolaires qui le font. Tout programme scolaire, universitaire, communique une façon de voir les choses. Et Dieu nous dit, l'Église prophétique doit communiquer ses yeux à lui. Les yeux sur les yeux. Et ensuite, les mains sur les mains. Ça veut dire quoi? Les mains, dans la Bible, c'est l'action de Dieu. Eh bien, c'est communiquer un modèle. Ce que nous sommes adultes, nous sommes regardés. Et je peux vous dire que nous sommes regardés de très près. Par nos enfants, par les ados. Un jour, je me rappelle, quelqu'un m'a dit, moi, de toute façon, moi, c'est avec Dieu, je fais tout seul. J'ai dit, non, mais t'es pas tout seul. Ce que tu fais, ça a des répercussions. Dans l'Église, là, ce qu'on fait, ça a des répercussions. Les enfants regardent. Et c'est pourquoi les 3 gestes, la bouche sur la bouche, les yeux sur les yeux, les mains sur les mains, il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Donc, vous voyez, la conjonction des 3 donne la vie. Et c'est pour ça qu'une réponse prophétique, c'est celle-là. Et c'est pour ça qu'on s'occupe d'école, entre autres. Je peux vous assurer que la vie, ce n'est pas seulement une prière. Communiquer la vie, c'est donner notre vie. Il n'y a pas d'autre solution. Et donner notre vie, c'est tous les jours. C'est le terrain de tous les jours. Et je pense aussi à ces enfants, je termine rapidement, mais qui sont avortés dans le sens qu'ils ne sont pas dans leur appel. Il y en a tellement. Et peut-être parmi nous, adultes aussi. Il y en a qui ont été avortés. Tu es vivant, tu es là, mais tu n'es pas rentré dans les choses que Dieu a pour toi parce que l'ennemi t'a arrêté. C'est aussi un avortement. Et je crois que l'intercession, elle est là pour briser cela et pour dire maintenant, ça suffit et la vie vient. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Soyez pas avec un message comme ça, parfois on peut être, vous voyez, je crois que ce qui est important, c'est de prendre le fardeau de Dieu sérieusement. C'est pas au niveau des sentiments, hein, c'est au niveau d'un fardeau de Dieu et de dire me voici. Et je termine en disant un appel par rapport à ceux dans l'église pour s'occuper aussi au niveau des enfants. Le groupe d'enfants grandit beaucoup, l'équipe de base ne suffira pas, il y a besoin d'aide et c'est pas nous qui allons presser. Mais on prie que le Seigneur vous presse vous-même de faire, de façon à ce que vous puissiez faire partie d'un roulement, avec, c'est un privilège, je crois aussi. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment vous donne de garder toute, une image à partager.
Je vais être très, très brève. Parce que vraiment le Seigneur nous encourage et j'ai été franchement très profondément touchée par ce qui a été dit. Ce matin, en prenant ma Bible, j'avais à cœur. J'ai eu ces deux photos de ma fille ce matin et je les ai prises. Donc, ça, c'est Linda quand elle avait 3 jours. Hein, donc, ça, c'est mes entrailles, hein, le fruit de mes entrailles. Et c'est Linda quand elle a fait son premier pas. Quand elle avait ses... Et là, elle avait 13 mois. Et j'avais tout le temps l'appareil photo sous la main. Et c'est pour vous dire que c'est l'image du cœur de Dieu ce matin pour l'Église, hein, qui dit maintenant, l'Église va faire son premier pas vers cette fertilité. Voilà. C'est vraiment, c'est très fort. Hein. Que Dieu nous bénisse, au nom de Jésus.
Voilà, une bonne dimanche à chacun et à la semaine prochaine.